Ce texte a été écrit par Marie-Noël Tabut, théologienne. Lorsque le prophète Isaïe annonçait des temps meilleurs au roi Achad, grâce à la naissance d'un futur roi, il lui disait « Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. » Cette phrase résonne en filigrane de tout l'évangile de Luc sur la naissance de Jésus, car la nuit de Bethléem résonne d'une merveilleuse annonce. Paix aux hommes que Dieu aime. Encore faut-il ne pas l'entendre de travers. Le texte ne signifie pas qu'il y a ceux que Dieu aime et les autres. Il faut évidemment traduire « paix aux hommes » parce que Dieu les aime. Tout le projet de Dieu est dit là, une fois de plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, bien sûr, nous n'avons rien à craindre. Ne craignez pas, disent les anges aux bergers. Que peut-on craindre d'un tout petit? Et si Dieu, tout simplement, avait imaginé de naître sous les traits d'un nourrisson pour que nous quittions à tout jamais nos craintes spontanées à son égard? Comme Isaïe, l'ange annonce la naissance d'un roi. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Autrement dit, celui que tout le peuple attendait depuis des siècles est enfin né. Car tout le monde avait en tête la prophétie de Nathan au roi de David. Le Seigneur le fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et je rendrai stable ta royauté. D'où l'importance des précisions données par Luc sur les origines du père de l'enfant. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. On savait aussi, à cause de la prophétie de Michée, que le Messie naîtrait à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, toute petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté de notre Seigneur, son Dieu. Lui-même, il sera la paix. C'est donc bien une bonne, une grande nouvelle qu'annoncent les anges aux bergers. Et l'on comprend que les armées célestes chantent la gloire de Dieu. Mais le plus surprenant ici est le constat entre la grandeur du destin promis au Messie et la petitesse de cet enfant né dans les circonstances les plus modestes. Pour l'instant, la force divine du bras de Dieu, qui libère son peuple dont parle Isaïe, repose dans deux petites mains d'enfants dans une famille pauvre, parmi tant d'autres. Et c'est bien cela le plus étrange, peut-être. Il n'y a rien de remarquable dans la pauvreté tout à fait ordinaire de la crèche. Mais justement, le signe de Dieu est là. C'est dans la banalité quotidienne, voire la pauvreté, que nous le rencontrons. C'est justement cela le mystère de l'incarnation. Celui que la lettre aux Hébreux appelle l'héritier de toutes choses naît parmi les pauvres. Celui que saint Jean appelle la lumière du monde est né dans la pénombre d'une étable. Et celui qui est la parole de Dieu créant le monde a dû être mis au monde comme toute créature et devra, comme tout un chacun, apprendre à parler. Pas étonnant que les siens ne l'aient pas reconnu. Pas étonnant non plus que ce soit les pauvres et les petits qui aient le plus volontiers accueilli son message. Le miséricordieux, celui qui est attiré par toute pauvreté, a tant pitié de la nôtre qu'en nous invitant à nous pencher sur ce berceau, il nous indique le meilleur moyen de lui ressembler. Ainsi, nous est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis avec Peyo Noblia, qui est prêtre coopérateur de la paroisse du Bon Pasteur. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que Noël ?
Noël, la naissance du Christ, Sylvie. Et pourquoi devons-nous la fêter ? Moi, je trouve que nous devons la fêter pour ne pas oublier le sens de l'histoire. De même que l'Évangile nous dit qu'il y avait, au moment où Jésus est né, il y avait l'empereur Auguste qui régnait partout. Et donc c'est lui qui va décider un recensement sur la terre. Donc Luc, l'évangéliste Luc, nous dit que Dieu écrit son histoire dans notre histoire. Donc comment est-ce que nous pouvons veiller à la fois à l'histoire humaine, nos grèves en ce moment, est-ce que les gens pourront aller à vacances, avec la grande histoire, celle que le Christ est venu établir parmi nous. Et donc nous allons fêter sa naissance à lui. Comme enfant, comme bébé, l'évangéliste Luc nous dit qu'il était né à Bethléem. C'est-à-dire que pour les croyants juifs, Bethléem est toujours pour eux un terreau d'espérance inouïe, puisque David était né là-bas, le grand roi David. Et bien, les croyants juifs, ils espéraient tous qu'un successeur allait lui régner, qui allait apporter la justice, la paix, l'espérance, tel que le prophète Isaïe nous le dit. Oui, mais pas ta trace. C'est qu'après, on est déçus. Parce que le fils Salomon, il a fait ce qu'il pouvait, et puis le royaume va se diviser. Et on espérait, on attendait toujours un successeur, quelque part un Messie, si tu veux, qui allait apporter le salut, la joie, nous dit le premier texte, la joie, la paix, un conseiller merveilleux, la justice. Mais les siècles passent, les années passent, et le roi n'est pas venu. Mais ils espéraient toujours que Dieu n'allait pas les oublier, que Dieu allait faire surgir quelqu'un. Les temps passent, les années passent, les siècles passent. Et c'est un petit couple de ce peuple d'Israël qui va faire advenir l'inouï de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous oublie pas. Il faut voir comment il écrit notre histoire avec nous. Et bien l'Évangile nous dit comment Dieu a écrit son histoire avec nous. Donc il a fait demander, on a deux annonciations, l'une à Marie, l'autre à Joseph. Eh bien, l'ange Gabriel demande à Marie, est-ce que tu veux bien donner la naissance à celui qui portera le salut d'Israël ? Elle lui dit, mais comment ? Mais l'Esprit viendra sur toi. Elle dit, oui. Et Joseph, qui ne voulait pas garder Marie, parce que Marie était enceinte de l'Esprit Saint, et Joseph, qui lui était celui qui devait être le mari, l'époux, il a dit, non, cette fille, elle a un enfant qui n'est pas de moi. Et l'ange lui aussi lui apparaît, lui dit, tu garderas Marie chez toi. Et Joseph a obéi. Et donc nous avons un couple magnifique qui dit oui au projet de Dieu, l'un et l'autre. Et bien là, maintenant, nous voyons comment ils vont quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Évidemment, c'est la ville du roi David. Le berger, c'était un berger, un petit berger. Le petit dernier d'une grande famille de huit garçons. Est-ce que vous avez huit garçons à la maison, hein? Il faut les accompagner, les nourrir et les écouter. Et ils se bagarrent entre eux. Comme dans toutes les familles, les frères et sœurs. Et bien, c'est de cette lignée que devait naître le Messie. Et donc là, nous voyons dans cet évangile qu'ils vont à Bethléem, le lieu où devait naître le Messie. Le Messie ne pouvait venir que de la lignée de David pour les Juifs. On ne pouvait pas reconnaître d'autres Messies. Beaucoup d'autres Messies se sont levés. Beaucoup. C'est comme aujourd'hui, on va dire, pour sauver la France, il faut voter à gauche, extrême gauche, droite, extrême droite. Donc chacun de nous, on a notre Messie aujourd'hui. On en a un, tous. Et quand on vote, et on peut être déçu, 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Et on espère toujours un nouveau président. Eh bien voilà, ça y est, nous disons, il est arrivé. Eh bien c'est Marie et Joseph qui sont allés à Bethléem. Et là maintenant, nous voyons que ce sont des bergers qui ont la révélation de cet enfant. Parce qu'il leur dit, on va nous dire 3 choses. C'est que l'ange va leur dire, n'ayez pas peur. Ça, c'est une parole très importante dans la Bible et dans les évangiles. Le Christ va leur dire plusieurs fois, n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Et parfois, on a peur dans notre vie, de ce qui se passe, de ce qui va arriver. Et c'est légitime, la peur est légitime. Mais c'est parce qu'on oublie aussi le projet de Dieu, me semble-t-il. Puis on a eu des guerres incessantes, donc on peut avoir peur. Ce sont des peurs légitimes. Il ne faut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont légitimes. Mais l'ange va lui dire, ne crains pas, ne vis pas simplement sur cette peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes né, ça y est, le Fils. Et donc là, on va trouver des titres très importants dans cet évangile. 3 titres très importants qui sont, cet enfant, il est le Sauveur. Et le Sauveur, c'était une appellation qu'on donnait à l'empereur. Et là, l'ange est en train de leur dire, vous aurez un nouveau guide. Voilà votre lumière, voilà votre étoile. Ne vous trompez pas d'étoile. C'est lui le Sauveur. Il est le Christ. Ah, le Messie. Mais à l'époque de Jésus, il y en avait plein qui se disaient Messie, mais plein. Et l'ange leur dit, ne vous trompez pas, c'est lui le Messie, la lignée de David. Et c'est lui qui va vous apporter la justice, la vérité. Et nous verrons que 30 quelques années après, lorsque le Christ apparaîtra, eh bien, il marche avec tout le monde. Les petits, les gens qui sont bien, les gens qui sont malhonnêtes, il marche avec son peuple. Mais il va ouvrir un chemin de salut, un chemin de bonheur, un chemin de paix, un chemin de guérison, un chemin qui sera à découvrir par chacun, parce qu'il nous laisse. Il va nous dire, va, lève-toi, allez, prends ton brancard, marche. Et où il est allé, ce paralytique. Et donc, tu vois que dans les évangiles, nous voyons cette liberté que le Christ donne à l'être humain. Mais il vient le sauver. Ça, c'est 30 ans après. Revenons à notre évangile de Noël. Et donc, nous avons le Sauveur, le Christ, le Messie et Seigneur. Et là, nous avons un petit clin d'œil, me semble-t-il, de l'évangéliste Luc. Parce qu'on a donné le titre de Seigneur à Jésus de Nazareth. Tu sais quand? Après la résurrection. C'est-à-dire que là, nous avons déjà en filigrane toute la mission du Christ, enfant, fils de David, par Joseph évidemment, et nous avons 30 ans de silence, et nous avons ensuite le Messie, le Sauveur, parce qu'en plus, Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament, notamment dans Isaïe, comme l'unique Sauveur, le seul Sauveur. Et puis on va dire aussi de Jésus qu'il est Seigneur, parce qu'il est ressuscité. Et que maintenant, la mort n'a plus aucune prise sur lui. Donc, il nous appartient à nous de trouver le chemin. Parce que ça, c'est la fête, on va célébrer. C'est le mystère. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. C'est nous, maintenant, qui devons essayer de trouver cette lumière, de discerner cette lumière aussi en nous. Parce qu'en nous, il y a tellement de choses, tu comprends? En nous, on peut aimer le président actuel, l'empereur Auguste, on peut aimer tellement de personnes. Et aimer le Messie. Alors, est-ce que Noël peut être aussi un temps où nous aimons cet enfant? Un enfant appelle l'amour. Mais après, cet enfant qui va devenir grand, mais il va apporter aussi l'amour. Mais il va dire aussi à Pierre, Pierre, tu continues à m'aimer? Ah. C'est que la vie est la vie. Alors j'avais envie de dire pour terminer d'autres choses. C'est que Luc écrit l'histoire de Dieu dans la grande histoire. Ça c'est clair. Ensuite, je vais dire une parole d'un poète mystique allemand qui a dit, vers 1650-60, il a dit, le Christ, il pourrait naître 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas, du verbe naître, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain. Donc comment est-ce que ce Noël peut être aussi pour nous un moment où nous pouvons laisser grandir le Christ, la lumière du Christ en nous, dans nos choix, nos relations, nos perspectives, dans nos deuils, dans tout ce qui fait notre vie. Et puis, je vais terminer aussi avec cette phrase de... Enfin, terminer ou presque terminer, avec une des phrases aussi de ce mystique qui dit « L'âme, notre être intérieur, a deux yeux. L'un, il regarde le temps, et l'autre regarde l'éternité. » Et pour nous, l'éternité, c'est le salut apporté par le Christ. Voilà Sylvie, en quelques mots, ce que nous allons célébrer, ce en quoi je crois, et qui fait aussi la source de ma vie. Moi, je crois que le Christ est sauveur, qu'il est Messie, et qu'il est Seigneur, pas simplement pour les chrétiens, pour l'Église, mais pour tous les hommes, pour notre génération, pour notre pays. Il faut que nous trouvions le chemin. Mais il est inscrit, mais il faut le découvrir, il faut le discerner. Alors, meilleurs vœux à toi Sylvie, à tous ceux qui vont entendre, écouter ce petit passage de l'Évangile, ou cet Évangile de Noël. Merci.
Merci beaucoup, Peyo.
Vivre l'Avent et préparer Noël. Voici un extrait de l'homélie du 29 novembre 2020 du pape François. Prier et aimer, voilà la vigilance. Quand l'Église adore Dieu et sert le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Fin de l'extrait. En ce temps de l'Avent, le pape François nous invite à faire mémoire de la proximité de Dieu, dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. Nous pouvons concrétiser cet appel en allant à la messe, en suivant la messe télévisée si on ne peut se déplacer, en prenant un temps de prière pour être en communion avec nos frères et sœurs, en méditant la parole de Dieu, en s'aidant de la liturgie des heures, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous sommes alors en communion spirituellement les uns avec les autres, et c'est le Christ qui fait de nous son corps. Enfin, en plaçant notre journée sous son regard par de brèves invocations, « Viens, Seigneur Jésus !» Nous pouvons la dire au début de chaque journée, et la répéter souvent, avant les rencontres, l'étude, le travail et les décisions à prendre, dans les moments plus importants et dans ceux de l'épreuve. La prière permet à Dieu d'être proche de nous. C'est pourquoi elle libère de la solitude et donne l'espérance. La prière oxygène la vie.
Dieu est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui nous parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes. Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium VII. L'Avent. L'Avent est un temps de préparation à Noël, qu'on appelle le temps de l'Avent. Ce mot vient du latin Adventus, qui signifie « avènement ». On emploie ce mot pour désigner la venue du Christ parmi les hommes. L'Avent désigne le temps qui précède Noël. Ce temps d'espérance comporte plusieurs formes. Il nous fait revivre l'attente du peuple juif de la venue du Messie, l'attente de la fête de la naissance de Jésus, nativité, mais aussi l'attente de l'avènement du Christ à la fin des temps. Le temps de l'Avent commence le quatrième dimanche avant le 25 décembre, soit le dimanche 29 novembre cette année. le premier dimanche de l'Avent, marque le début d'une nouvelle année liturgique.
Quelques symboles de l'Avent et de Noël. Saint Nicolas. Il naquit en Asie mineure, devint évêque de Myre et est mort vers 350. Il est fêté le 6 décembre. De nombreuses légendes circulent. Elles sont sans doute fondées sur sa réputation de bonté envers les pauvres et les enfants. En Occident, Saint Nicolas est le saint patron des enfants. Il est particulièrement fêté dans l'Est de la France et dans l'Europe du Nord. Il a inspiré l'image du Père Noël.
Sainte Lucie. Lucie est un prénom venant du latin lux, lucis, désignant la lumière. Sainte Lucie est issue d'une noble et très riche famille de Syracuse. Elle a souffert le martyre au début du IVe siècle. Son nom figure dans la liste des saints et saintes de la prière eucharistique numéro 1. Elle est particulièrement fêtée dans les pays de Scandinavie, plongée dans le noir de l'hiver à cette époque. Elle est annonciatrice de la lumière du jour qui va recommencer à croître.
La couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent avec les bougies a été inventée par un pasteur de Hambourg en Allemagne. Chaque matin, il allumait un petit cierge de plus et chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n'a retenu que les grands. Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie. La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise. La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un règne de justice et de paix.
Cadeaux. La coutume d'offrir des cadeaux à Noël symbolise la présentation des offrandes des bergers et des mages à l'enfant Jésus. Donner un cadeau à Noël évoque également le don que Dieu fait en nous donnant son Fils. Il nous rappelle aussi que Jésus invite au partage.
Le sapin. Le sapin, toujours vert, est le symbole de la vie au cœur de l'hiver, alors que le reste de la nature semble mort. L'arbre de Noël décoré apparaît en Alsace en 1521. Au XVIIe siècle, il commence à être illuminé avec des petites bougies. Les flammes évoquent la lumière que la naissance de Jésus apporte à tous les hommes. Une étoile au sommet rappelle l'étoile de Bethléem qui brille dans la nuit.
La crèche. Selon la tradition, l'origine de la crèche de Noël remonte à saint François d'Assise. En 1223, il organisa une crèche vivante avant de célébrer la messe de Noël. Les premières étaient vivantes. Peu à peu, elles furent remplacées par des figurines ou santons. Faire une crèche est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine, qu'il s'est incarné.
Les boules. Les premières décorations du sapin de Noël se réduisaient souvent à des pommes. La légende indique qu'en 1858, l'automne et l'hiver furent si rigoureux dans l'est de la France que la récolte des pommes s'en ressentit. Un maître verrier de Meisenthal, en Moselle, aurait eu l'idée de les remplacer par des boules en verre soufflé peintes à la main. La tradition est restée, même si le matériau a évolué.
La bûche. symbole de la lumière apportée par Jésus. On en plaçait une grosse dans la cheminée, capable de tenir pendant toute la durée de la messe de minuit. En 1875, un pâtissier parisien eut l'idée d'en faire un gâteau typique de la fête de Noël.
Le calendrier de l'Avent. Venu des pays du Nord, il permet aux enfants de vivre la période de l'Avent qui prépare à Noël. À chaque jour, correspondent une fenêtre et des volets qu'on ouvre, délivrant un message, une récompense.
Le hou. Le hou de Noël porte une grande valeur symbolique, surtout pour les chrétiens. Ses feuilles sont persistantes, symbole d'éternité, de promesse du printemps prochain, dentée et épineuse, symbole de la couronne que Jésus porta lors de la Passion. Ses baies sont rouges vifs, symbole de lumière et de sang versé par Jésus sur la croix.
Rejoice, 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 rej
Nous sommes dans le temps de l'Avent.